Il est 8h, soyez les bienvenus.
On va regarder l'heure, on va attendre avec impatience le résultat, mais à mon avis, on va être confinés le week-end.
L'impatience des Niçois, alors que l'épidémie flambe dans les Alpes-Maritimes, de nouvelles mesures restrictives doivent être annoncées ce matin. Pendant ce temps, en Israël, l'heure est au déconfinement, avec au cœur de la stratégie le passeport vaccinal. Et puis c'est un mot qui fait rêver, mais qui reste encore bien mystérieux. Nous parlons ce matin du Bitcoin, qui nourrit bien des fantasmes. Juste après ce journal, l'interview politique avec l'ancien grand patron, jeune retraité, Louis Gallois. Il a dirigé Airbus, la SNCF, il vient de quitter PSA, et il appelle à soutenir les jeunes et maintient que le RSA est un bon levier pour les aider. Louis Gallois, juste après ce journal. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h. Bonjour Rémi Bossaron.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il y a un département français qui se réveille ce matin avec un horizon bien différent des autres. Les Alpes-Maritimes devraient se voir imposer aujourd'hui des mesures supplémentaires face à l'épidémie qui flambe sur son territoire. On évoque un durcissement du couvre-feu ou un confinement imposé le week-end. Marion Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Nice pour Europe 1. Ces nouvelles mesures, les Niçois que vous avez rencontrés ce matin, ils les attendent impatiemment.
Oui, ceux que j'ai rencontrés tout le week-end d'ailleurs avouaient compter les heures de liberté qu'il leur restait. Certains profitent encore ce matin de la promenade des Anglais, mais sans conviction. Le retard de la décision censée tomber hier n'est pas pour les rassurer sur la suite. Tim est même parti plus tôt au travail ce matin pour prendre le temps de regarder les annonces pour encaisser.
Un petit peu le stress, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Personnellement, c'était une année assez rude, donc un troisième confinement, ce ne serait pas la joie. En fait, de ne pas savoir, c'est pas pouvoir savoir ce qu'on va faire la semaine prochaine, le week-end prochain, c'est bien pire, bien pire.
Pire que d'être totalement reconfiné, même la semaine, beaucoup ici en viennent à préférer d'ailleurs cette solution radicale avec l'espoir de tourner la page plus vite. Mais Cathy craint encore des demi-décisions.
Ça m'agace parce que ça traîne, on confine, on déconfine. On ne voit pas la fin, hein. On va regarder l'heure, on va attendre avec impatience le résultat, mais à mon avis, on va être confinés le week-end.
Une mesure qui permettrait de réduire l'afflux de touristes. Et là, ce sont les hôtels-restaurants qui se tordent les mains. Leurs clients pourraient bien adopter comme destination le voisin Varois.
Merci Marion Gauthier, envoyé spécial à Nice pour Europe 1. Et pendant ce temps, un autre département attend d'être fixé sur son sort aujourd'hui. Mais cette fois, la réponse viendra de l'étranger. La Moselle pourrait être classée par l'Allemagne zone à forte incidence. En tout cas, ce qu'affirment les médias outre-Rhin, il faudrait alors, en théorie, présenter un test PCR négatif pour passer la frontière.
Et sur le front de la vaccination, plus d'un million de Français ont déjà reçu deux doses, mais on reste très loin en proportion de ce qui a été réalisé déjà en Israël.
Et là-bas, près d'un habitant sur deux a déjà reçu la première dose, un habitant sur quatre la deuxième, et c'est dans ce contexte que le pays a entamé hier la réouverture de son économie et de ses commerces avec une arme clé, le passeport sanitaire. Bonjour Jean-Charles Banone.
Bonjour.
Alors les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien évidemment, vous avez dirigé le service des sports de notre station, vous êtes aujourd'hui présentateur sur la chaîne israélienne I24 News et vous êtes justement détenteur d'un passeport sanitaire. Alors comment se présente désormais la vie pour vous ?
Bah écoutez, par exemple, si je veux aller profiter de la douceur du climat dans le sud d'Israël, je peux, grâce à ce passeport vert, prendre un vol intérieur, Tel Aviv, Eilat, et là, je pourrais, encore une fois, en présentant mon fameux passeport vert qui est sur mon téléphone, réserver une chambre d'hôtel. Je ne serai uniquement accompagné que de personnes vaccinées. Je peux également depuis hier retourner dans ma salle de gym, ce qui n'était plus le cas depuis des mois. Je peux aller au musée, au théâtre, bref, des activités qui seraient totalement fermées encore aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette vaccination massive en Israël.
Est-ce qu'il y a, comme en France, un débat sur l'atteinte aux libertés individuelles que représenterait ce passeport ?
Alors globalement, on peut dire qu'il y a une très grande adhésion de la population israélienne à la campagne de vaccination parce qu'il y a eu énormément de campagnes à la télévision pour inciter les gens à se faire vacciner. Si vous voulez retrouver votre vie d'avant, allez vous faire vacciner. C'est le slogan qui est martelé depuis des mois. Mais il y a eu un électrochoc hier pour les anti-vaccins qui sont minoritaires. L'une des membres d'un groupe anti-vaccin très actif sur les réseaux sociaux est décédée. Elle était âgée de 32 ans. Elle était enceinte de 7 mois et elle a contracté le variant britannique du coronavirus qui est très virulent chez les femmes enceintes, et son beau-frère, qui était l'animateur de ces groupes, a décidé de retirer tous ces groupes des réseaux sociaux en reconnaissant qu'il s'était trompé et qu'il fallait se faire vacciner.
Merci Jean-Charles Banone, merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin d'Israël pour évoquer donc ce passeport sanitaire mis en place là-bas dans le cadre du déconfinement.
Les évêques de France se réunissent aujourd'hui afin de poursuivre une réflexion très attendue. Une
réflexion sur les abus sexuels commis dans l'Église. Une discussion à huis clos qui sera alimentée par les résultats d'un travail au long cours lors d'Autriche.
Oui, depuis un an et demi, quatre groupes de travail planchent sur la réparation due aux victimes, l'accompagnement des prêtres agresseurs et la prévention. La réparation financière pour les victimes sera au cœur des débats, même si ce ne sera pas le seul mode de reconnaissance de la douleur des victimes. Durant ces trois jours de discussion, un théologien lira notamment des passages dans la Bible qui concernent la responsabilité. Puis au mois de mars, les évêques annonceront un dispositif à long terme qui concernera la reconnaissance de la souffrance des victimes. En parallèle, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a reçu en un an et demi 6500 appels de victimes présumées ou de témoins via une plateforme téléphonique qui avait été mise en place. La moitié des appels concernent des cas d'abus sexuels qui se sont produits dans les années 50 et 60. Cette commission vient de terminer de recenser les abus sexuels depuis 1950 et elle rendra son rapport à l'automne 2021.
Merci pour ces explications, Lord Autriche.
C'est une petite pièce que l'on peut glisser dans la grande machine à fantasmes, le Bitcoin. Le Bitcoin n'en finit plus de faire saliver les investisseurs.
Une unité de cette crypto-monnaie vaut aujourd'hui 55 000 dollars. Son marché vaut 1 000 milliards de dollars. Tout cela paraît complètement abstrait. Et pourtant, derrière ces données astronomiques, il y a une réalité concrète. C'est le dossier de la rédaction ce matin. Avec vous, Emmanuel Dutheil et Clément Le Saffre, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, Emmanuel Dutheil, rappelez-nous, comment est né le Bitcoin?
Alors ça va peut-être vous étonner. Personne ne le sait. La légende dit que c'est un Japonais, Satoshi Nakamoto, qui l'aurait créé en 2009. Mais voilà, personne n'a jamais trouvé trace de cette personne ou du collectif qui serait derrière. Ces inventeurs ont prévu un protocole et une technique en revanche très poussée. Les bitcoins sont fabriqués par des ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24. Ça s'appelle le minage, un procédé très gourmand en électricité. Les transactions consomment plus d'énergie que des pays comme les Pays-Bas ou l'Argentine. Côté investisseur, on ne peut acheter des bitcoins que sur une plateforme spécialisée et son prix fluctue selon la loi de l'offre et de la demande.
Clément Le Saffre, quel est le profil des gens qui investissent dans le Bitcoin?
Si on met de côté les professionnels de la bourse, le Bitcoin attire beaucoup d'amateurs et de curieux, des gens pas habitués à miser sur les marchés financiers mais qui sont intrigués par le boom et la liberté qui entourent les crypto-monnaies. Alors, ce sont principalement des hommes jeunes comme Vincent, il a 18 ans, il est étudiant en informatique, il a commencé à investir dans le Bitcoin en novembre dernier.
J'ai commencé à investir avec 800 euros et je continue d'investir entre 100 et 180 euros par mois sur le long terme. Par exemple, je travaille, hop, je mets 30% de côté, ou à Noël, hop, j'essaye de mettre 100, 200 de côté. Je me suis fixé, moi, de me faire tous les jours, tous les matins, dès que je me lève, une heure d'actualité de l'info de la veille, et puis à regarder tous les jours quand ça bouge, etc. Je dois y passer 2h30, 3h par jour, je pense.
Voilà, donc ça fait pas mal de temps et comme Vincent, la plupart des gens investissent des sommes assez modestes en fait, quelques centaines d'euros, avec du coup des profits loin d'être astronomiques. Ça ne fait pas toujours rêver. Vincent, par exemple, il a gagné une centaine d'euros en 4 mois.
Alors, acheter du Bitcoin, d'accord, mais alors pourquoi faire, Clément?
La quasi-totalité des acheteurs investit dans le Bitcoin pour le profit et uniquement le profit. C'est devenu un placement financier comme un autre. On achète du Bitcoin comme on ouvrira un PEL, quelque part, selon Emmanuel Valente, directeur analyse et recherche de CoinHouse. C'est une plateforme française d'échange de crypto-monnaies.
95% des gens qui viennent nous voir sont dans une optique d'investissement et de constitution d'une épargne. Il faut savoir que ça reste un marché qui est extrêmement volatile. Et donc, faut pas être là forcément en train de regarder tous les jours les cours et à paniquer forcément si on voit par exemple une forte baisse. Mais prendre ça plus sur le moyen long terme, c'est quelque chose qui est du coup beaucoup plus rentable en général.
Alors, on les épargne, ces bitcoins, parce que de fait, on a un peu perdu de vue aujourd'hui l'aspect monnaie des crypto-monnaies. Il faut dire qu'il n'y a pas 1 000 moyens de payer en bitcoin. Sur Internet, on peut s'en servir avec PayPal, par exemple. En France, il y a quelques centaines de magasins physiques qui acceptent les bitcoins. Certaines entreprises, Uber, Tesla, Visa, réfléchissent, elles, à l'intégrer prochainement dans leurs moyens de paiement.
Alors, Emmanuel Dutheil, on l'a entendu, le bitcoin est très volatile. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en acheter?
C'est très compliqué d'y répondre. Seule certitude, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Mais voilà, aujourd'hui, personne ne sait où se situe le ciel pour le Bitcoin. Donc oui, ça peut être intéressant si on accepte l'idée que c'est extrêmement risqué et que l'on peut tout perdre. Le Bitcoin est une monnaie très jeune, nous n'avons aucun recul et ça c'est historique.
Merci.
Vous avez des Bitcoins autour de la table ? Non, non. Personne.
Mais il y a du regret.
Je pensais que c'était. Oui, il y a quelques années, on a pu être tenté, on l'a pas fait et on le regrette. Merci à vous deux, Emmanuel Dutheil et Clément Le Saffre, pour ce dossier de la rédaction d'Europe 1.
C'est un duel au sommet qui s'annonce entre deux trésors français. À ma droite, la baguette. À ma gauche, les toits de Paris.
Lequel de ces deux symboles de notre pays pourra intégrer le patrimoine immatériel de l'UNESCO ? Ils sont tous les deux candidats pour représenter la France et leurs défenseurs affûtent leurs arguments, comme a pu le constater Zoé Pallier.
D'un côté, la baguette de pain.
On est le meilleur candidat parce que la baguette est un sujet qui concerne tout le monde.
Dominique Enrac est le président de la Confédération nationale de la boulangerie. Pour lui, la baguette, de préférence bien cuite, c'est le symbole du patrimoine français.
Ça transcende les classes sociales. Le fait d'aller chercher cette baguette tous les jours, d'envoyer la première course à un enfant, le premier quignon de pain à un bébé, c'est toute cette culture qu'on veut conserver. Les toits de Paris, bon, on est un petit peu en compétition. On les invitera, je pense, à manger une bonne baguette avec nous.
En face, l'adversaire principal a de la répartie.
C'est pas avec la baguette de pain qu'on va reconstruire Notre-Dame.
Gilles Mermet, ambassadeur de la candidature des Toits de Paris, 22 mètres au-dessus du sol, il admire la vue panoramique, un voile de plaques de zinc, de toutes les nuances de gris.
Nous, notre vœu d'inscrire les savoir-faire des couvreurs zingueurs et des ornemanistes au patrimoine de l'UNESCO, c'est une façon de donner un éclairage prestigieux sur ce métier pour essayer d'attirer des jeunes. Il y a 500 jeunes qui manquent tous les matins sur les Toits de Paris et cet éclairage-là va certainement aider à susciter des vocations.
Le candidat espère être plus chanceux que l'an passé, éliminé dans la dernière ligne droite face à la yole martiniquaise.
Ce débat, eh bien la décision sera prise par la ministre de la Culture le mois prochain.
Un mot de football pour terminer, même si vous fait un peu de peine, 26e journée de Ligue 1 et cette ambiance que vous entendez hier soir dans les vestiaires de Monaco, au Parc des Princes, les Monégasques qui ont gagné 2-0 face au PSG et ce qui leur fait particulièrement plaisir, c'est ça. Deux jours de repos offerts par leur entraîneur Niko Kovac. Explosion de joie en récompense de cet exploit, car c'est un exploit tout de même de s'imposer sur la pelouse du Paris Saint-Germain.
Bravo Monégasque. Non, moi j'ai manqué le match contre le FC Barcelone la semaine dernière, faute de Wi-Fi. Je suis très content d'avoir pu voir cette d'ailleurs de rentrer de vacances et de voir ce match. Merci Rémi Bossaron, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Europe 1.